14e jour. Procès et condamnation. Je cite: Je remercie le Seigneur de ce que depuis ma venue ici, en prison, je fais chaque jour de moins en moins cas de la mort. Car si un homme perd quelques-unes de ses années ici-bas, il est maintes fois récompensé en se trouvant plutôt au ciel. C'est pourquoi, ma bonne et chère fille, je vous assure que si cette pensée m'a attristée auparavant, à ce jour, elle ne m'attriste nullement. Ces quelques lignes donnent le sentiment que Thomas More accepte sans difficulté son emprisonnement et la perspective de sa mort. Mais cela n'est devenu possible qu'après un long cheminement personnel. C'est après des nuits d'insomnie et un véritable combat intérieur que Thomas More choisit librement de ne pas prêter le serment de suprématie du roi sur l'Église d'Angleterre. Je cite: J'ai compté, Margaret, pendant maintes et maintes nuits sans repos, tandis que ma femme dormait, pensant que je dormais aussi, tous les dangers qui pouvaient m'assaillir, si bien que je suis sûre de n'être pris au dépourvu par aucun. Et après cela, j'avais le cœur bien gros. Pourtant, en dépit de tout cela, je n'ai jamais songé à changer d'avis, quand bien même me dut advenir ce qui faisait mon ultime crainte. Fin de citation. Seul laïc convoqué parmi tous les clercs par la commission royale pour prêter serment, alors qu'il traverse la Tamise en barque pour répondre à cette injonction, après un vrai combat intérieur où la grâce a raison de sa tristesse, il peut soudain murmurer à l'oreille de son gendre: Fils Roper, j'en rends grâce à notre Seigneur, la bataille est gagnée. Une fois incarcéré, Thomas More met en œuvre toute son intelligence et sa compétence juridique pour déjouer les pièges qui lui sont tendus. Dans un premier temps, il parvient sans difficulté à mettre à bas des chefs d'accusation tels que ceux de corruption ou de partialité dans l'exercice de ses fonctions de juge et même à ridiculiser quelque peu ses accusateurs. Accusé, par exemple, d'avoir accepté une coupe en or comme pot de vin remise par la femme d'un certain Vaughan, il répond qu'il a bel et bien accepté cette coupe. Mais il ajoute immédiatement que, l'ayant fait remplir de vin afin de boire à la santé de sa donatrice, il la lui a redonnée pour qu'elle l'offre à son mari en guise d'étrenne. Roper, qui raconte cette histoire dans la vie de saint Thomas More, conclut: C'est ainsi que cette grande montagne se réduisit à une petite taupinière. Plus grave, vu le contexte, est son refus de prêter le serment à l'acte de suprématie établi par le Parlement. More, soumis à des pressions de toute nature, y compris les plus menaçantes, donne une leçon de courage tranquille en disant en préambule de sa défense, je cite: « Messieurs, cette erreur serait efficace avec des enfants, non point avec moi. » Ses accusateurs n'arrivent pas à trouver de faille dans son argumentation de juriste rigoureux qui rappelle l'inviolabilité de la pensée. Un homme peut être condamné pour ses paroles ou ses actes, mais jamais pour son silence. Ayant mandat de condamner Thomas More, la commission royale ne recule devant aucune tromperie. Le seul témoin qu'elle fait avancer est un fonctionnaire haut placé. Richard Rich jure que More, en sa présence, a refusé d'admettre la suprématie du roi. More, discrédité, réagit avec vigueur. Je cite. Si j'étais homme, messieurs, à ne me soucier point d'un serment, chacun sait que je n'aurais point lieu d'être ici présentement en accusé. Et si votre serment, maître Rich, est véridique, alors je souhaite ne voir jamais la face de Dieu, ce que je ne ferai point pour gagner l'univers. En toute bonne foi, Rich, je suis plus affligé de votre parjure que de mon propre péril. Sans tenir aucun compte de ce démenti, le jury, à l'unanimité de ses 12 membres, décide de le condamner. La sentence de mort va être prononcée, mais mort en appelle à l'usage pour obtenir la parole. La coutume est en effet de donner la parole à l'accusé avant de prononcer une sentence. Mort rappelle alors avec force que, je cite, l'accusation est fondée sur un acte du Parlement qui est en contradiction directe avec les lois de Dieu et de sa Sainte Église, dont aucun prince temporel ne saurait s'arroger le gouvernement par la loi. En conséquence, ladite loi est en droit insuffisante au sein d'une société chrétienne pour porter en accusation un chrétien. Il poursuit en affirmant que l'Église d'un royaume, petite part de l'Église, n'a aucun droit de légiférer en contradiction avec la loi générale de l'Église. Il lui est ensuite reproché de refuser ce que la très grande majorité accepte, ce qui amène cette réponse de mort. Je cite. Dans toute la chrétienté, ce n'est pas le plus petit nombre qui est, en ceci de mon opinion, a fortiori si je parlais de tous ceux qui sont déjà morts, et parmi lesquels beaucoup sont à présent des saints du ciel. La commission, nommée tout exprès pour le condamner, prononce la condamnation à la peine capitale. Avant d'être reconduit dans sa prison, le traître montre sa grandeur d'âme en déclarant, je cite, « Tout comme le bienheureux apôtre saint Paul assista et consentit à la mort de saint Étienne, gardant les habits de ceux qui le lapidaient, non sans que tous deux soient maintenant des saints au ciel, où ils demeureront unis à jamais, de même, j'espère en vérité et prierai fervemment pour que vos seigneuries, qui avez été mes juges et m'avez condamné sur la terre, et moi-même, puissions tous nous rencontrer joyeusement au ciel pour notre salut éternel. » Thomas More n'a jamais recherché le martyre, considérant qu'il aurait eu de la présomption dans une telle recherche. Il se réfère à l'exemple de saint Pierre, reniant le Christ à 3 reprises ou s'enfonçant dans les eaux de la mer de Tibériade. Il exprime son ferme espoir que le Christ me tendra sa main bénie et me retiendra sur cette mer déchaînée pour empêcher que je me noie. Il évoque aussi saint Paul qui craignait de succomber à la tentation, mais que la grâce de Dieu suffisait à affermir et à maintenir debout. Son abandon à la Providence atténue son angoisse pour sa famille, dont il sait bien qu'elle sera non seulement endeuillée, mais aussi ruinée et stigmatisée. Ses biens sont déjà confisqués. Néanmoins, après avoir analysé, réfléchi, médité et prié, il va jusqu'au bout de sa liberté et de sa confiance en Dieu, illustrant sa cohérence entre ce qu'il pense, croit, dit et fait. À l'exemple de saint Thomas More, sommes-nous assez lucides et humbles pour nous souvenir que l'esprit est ardent mais la chair est faible, et pour répéter à la suite du Christ en agonie, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux.